Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez Studio Tamani sur la radio Adar 91.9 FM depuis Menaka. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 18h. Au sommaire, le délestage que connaît le pays en ce moment n'épargne pas la circulation routière. Le non-fonctionnement de certains feux tricolores rend la circulation compliquée dans la capitale. Le corps diplomatique de la Confédération des États du Sahel dénonce une ingérence de l'Union africaine dans les affaires internes des États membres. Les différents ministres l'ont exprimé dans un communiqué conjoint rendu public hier. L'audience de l'artiste international Rukia Traoré a eu lieu hier jeudi devant le tribunal de Rome en Italie. Son avocat dénonce des vices dans la procédure belge. Le développement à suivre dans un instant. À la présentation, Adama Amadou Haïdara Ibrahima Sanogwa sur la mise en onde. La densité du trafic routier dans les grandes villes fait que, pour éviter des ennuis, il est nécessaire de procéder à une régulation en temps réel. En plus des agents de la Compagnie de la circulation routière, les carrefours de la capitale sont aussi munis de dispositifs de feux tricolores. Cependant, le délestage électrique et le dysfonctionnement de certains panneaux compliquent la circulation en de nombreux endroits. Quelles sont les dispositions prises par les services compétents? Qu'en pensent les usagers? C'est dans ce reportage de Mamadou Samassikou.
Djibril Sibé est le directeur du service de la régulation de la circulation et des transports urbains à la mairie du district de Bamako. Selon lui, les différents canaux de remontée d'informations permettent à son service de savoir les carrefours qui ne fonctionnent pas.
Nous-mêmes, nous surveillons ces carrefours-là. Il y a des usagers qui ont nos contacts, qui nous remontent certaines informations par rapport au fonctionnement des feux. Et la police aussi, qui est présente, travaille de façon très efficace avec nous pour nous signaler tout dysfonctionnement au niveau des feux.
Des usagers de la circulation réclament plus de promptitude dans la gestion des cas de panne de feux tricolores pour ainsi éviter des désagréments.
La densité de la circulation fait que sans les feux là, il y a certains carrefours qui sont très difficiles à gérer.
Qu'ils dépendent ou qu'ils remplacent carrément les panneaux qui ne fonctionnent pas.
Qu'ils s'en occupent au plus vite pour éviter des désagréments. Certains usagers sont imprévisibles.
Djibril Sibé, responsable du service de la régulation de la circulation et des transports urbains de Bamako, rassure que des dispositions sont régulièrement prises pour gérer les pannes signalées et rétablir le bon fonctionnement des 10 panneaux.
Souvent, ça demande des déplacements de nos équipes parce que la distribution électrique est souvent capricieuse. Souvent, même à la reprise, il faut aller intervenir sur le carrefour pour faire fonctionner le feu.
Selon la mairie du district de Bamako, la ville dispose d'environ 83 carrefours équipés de feux tricolores. Actuellement, une dizaine de ceux-ci fonctionnent sur le solaire.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel dénoncent une ingérence de l'Union africaine dans les affaires internes des États membres. Dans un communiqué conjoint rendu public hier, les diplomates de l'AES ont désapprouvé et condamné la déclaration du commissaire de l'Union africaine en charge des affaires politiques, paix et sécurité sur le retrait des trois pays de la CEDEAO. Ce dernier a indiqué que le retrait de trois pays est inacceptable pour l'Union africaine. Les détails avec Kimran Kilumaiga.
Benkola Diaye a d'abord plaidé pour une communauté unie. C'était le dimanche 7 juillet dernier au 65e sommet de la CEDEAO tenu à Abuja au Nigeria. Le commissaire de l'Union africaine a en outre déclaré que nous croyons en une seule CEDEAO. Le retrait annoncé des États de l'Alliance du Sahel est inacceptable, dit-il, pour l'Union africaine. Pour les diplomates de la Confédération des États du Sahel, ses attributions ne lui confèrent aucun droit d'ingérence dans les affaires intérieures d'États membres de l'Union africaine. Selon eux, cette attitude est contraire au devoir de réserve, d'obligation et d'impartialité des responsables de l'organisation. Par ailleurs, le ministre regrette des jugements de valeur à géométrie variable de la Commission de l'Union africaine. Pour rappel, les trois pays de l'AES avaient annoncé en janvier dernier leur départ de la CEDEAO, une organisation qu'ils jugent instrumentalisée par la France.
Comme annoncé dans les titres, l'audience de l'artiste international Rukia Traoré a eu lieu hier jeudi devant le tribunal de Rome. L'avocate a de nouveau soulevé l'objection des vices dans la procédure belge. Madalena Delere a fait référence au fait que Rukia ait été condamnée à son absence et sans l'assistance d'un avocat. Suite à ces contradictions, la Cour d'appel de Rome envisage de transmettre le dossier à la Cour de justice européenne à Luxembourg pour évaluer la violence alléguée. Quelle va être la suite de la procédure? Écoutons l'avocate Madalena Delere au micro de Archia Touré.
La Cour d'appel a pris très au sérieux la question soulevée. Il envisage de transmettre les dossiers à la Cour de justice de l'Union européenne, à Luxembourg, pour qu'elle évalue la violation alléguée. Malheureusement, Mme Traoré est encore en prison. Nous sommes en train de chercher un logement à Rome pour qu'elle puisse passer les jours d'attente de la décision de la Cour européenne dans une maison en résidence surveillée aux arrestations domiciliaires. La Cour d'appel italienne a fait, selon moi, preuve de sensibilité juridique dans le cas de Mme Traoré.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
Les populations se réjouissent de la levée de la sanction, de la suspension, des activités des partis politiques et associations annoncée le mercredi dernier en Conseil des ministres. De Yoroso à Yuwaru, Ségou et à Bamako, les citoyens estiment que cette reprise des activités politiques permettra de renforcer la démocratie dans le pays. Ils réagissent dans la rubrique « On en parle » au micro de nos correspondants locaux.
Nous sommes très contents de cette levée de suspension parce que dans un pays sans la démocratie, rien ne va.
Vraiment, c'est une bonne chose. Ça permettra aux partis aussi de reprendre vraiment leurs activités.
La levée des suspensions correspond au fait que maintenant, il n'y a plus de voix. Ils sont devant les tribunaux, ils ne vont même plus parler.
Les partis politiques là vont commencer à s'organiser maintenant pour préparer les élections.
C'est bien réfléchi de la part du régime en place parce que les partis politiques, les regroupements, les associations vont redémarrer à nouveau, vont commencer leur mouvement.
Ici à Ségou, nous pensons que c'est une bonne chose et puis ça amène un apaisement au sein de la société. Nous avons accueilli ça avec un grand soulagement et ça rentre dans le cadre d'un apaisement total.
À présent, le résumé de l'actualité de la semaine avec Assetou Kanté.
La rétrospective de cette semaine débute par cette nouvelle qui a dominé l'actualité. Il s'agit de la désignation de Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, et Fornia Simbé, président du Togo, comme facilitateur de la CEDEAO dans les discussions avec les États de l'AES. Cependant, des experts restent sceptiques quant à la réussite de cette mission. L'actualité, c'est aussi ce rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA, publié en fin juin dernier. Ce rapport stipule qu'au Mali, plus de 330 000 déplacés internes et 288 000 réfugiés ont été recensés au mois de mai dernier. Des régions du nord et du centre sont les plus touchées par ces déplacements. Par ailleurs, ce 11 juillet, c'était la célébration de la Journée mondiale de la population. Au Mali, l'événement sera commémoré le 18 juillet prochain, mais il intervient dans un contexte où l'insécurité, la malnutrition, l'hygiène, l'assainissement et le manque d'infrastructures socio-sanitaires restent encore des défis. Terminons par la couleur de l'eau du robinet qui inquiète depuis quelques jours les habitants de certains quartiers de Bamako. La société malienne de gestion de l'eau potable Somajep SA rassure que cette eau, malgré sa couleur, est propre à la consommation.
Nous sommes à 2 semaines des Jeux Olympiques Paris 2024. Le Mali participe à ce grand rendez-vous à travers 6 disciplines sportives. Au même moment, les tirages au sort des tours préliminaires de la Coupe CAF et de la Ligue des champions africains ont eu lieu hier au Caire en Égypte. 2 clubs maliens prennent part à ces tours préliminaires. Oumaru Igalo.
En athlétisme, le Mali sera représenté par Djenebou Danté. En boxe, c'est la franco-malienne Fatoumata Marine Camara qui portera le drapeau national. En taekwondo, Ismaël Koulibaly défendra la couleur du Mali. En natation, le pays aura 2 représentants. Il s'agit d'Alexiane Kouma et Aissata Diabaté. En football, les U23 d'Aliou Badra Diallo alias Kunti, 3e en Afrique, vont tenter de hisser le drapeau malien dans le ciel de Paris. Par ailleurs, les tirages au sort des tours préliminaires de la Coupe CAF et la Ligue des champions ont eu lieu hier. Djoliba Assé, champion du Mali, affronte les Red Stars de la Centrafricaine en Ligue des champions. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako est exempté du tour préliminaire.
Avant de refermer cette édition, nous vous rappelons que juste après ce journal, vous pouvez suivre votre émission culture du club de le club de Tamani. Elle s'intéresse au Koteba, une danse traditionnelle, une présentation de Lala Diarra Touré et de Aissata Diarra. Vous pouvez également réécouter gratuitement ce journal et le magazine qui va suivre en appelant le service Kunafoni au 37 321. Niamey, la capitale du Niger, a accueilli le premier sommet de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'était le samedi 6 juillet 2024, en présence des trois chefs d'État. La confédération de l'AES a été créée à cette occasion. Le Burkina, le Mali et le Niger étant des pays membres, des pays en voie de développement, quel avenir économique nous réserve cette nouvelle confédération ? Opérateurs économiques et experts en économie ont donné leur avis dans le magazine Économie, une réalisation de Mamadou Samassikou.
Boubacar Diko et Samba Niane sont des opérateurs économiques installés respectivement à Gao et Mopti. Si dans la cité des Askia, on apprécie la création de la confédération, dans la Venise malienne, on émet des réserves.
Nous, on a toujours travaillé avec ces localités, ces pays voisins, qui sont le Niger, le Burkina et le Mali. Nous avons beaucoup de choses de commun. Franchement, on a apprécié et ça doit nous faire avancer.
Aucune de nos marchandises ne provient de l'espace AES. Cela constitue pour nous un véritable problème. Principalement, nous importants de l'Allemagne via le Sénégal.
Pour des économistes, au Mali, il faut des préalables pour pouvoir bien profiter de cette confédération. Selon Modibo Mahou Magalou, l'un des objectifs de cette confédération étant d'accroître les échanges, il s'agira entre autres d'avoir des routes, d'avoir accès à l'énergie et à l'investissement.
L'impact de la confédération sur l'économie du Mali ne sera pas ressenti à très court terme, mais plutôt à moins long terme. Parce que vous savez, nous avons une économie au Mali qui est très ouvert sur le commerce international. Malheureusement, nous ne commerçons pas beaucoup avec nos deux autres voisins que sont le Burkina et le Niger. Donc je pense que l'objectif de cette confédération, c'est aussi d'accroître ces échanges, mais qui requiert un certain nombre de préalables.
La création des marchés intérieurs dans la confédération et une politique commune pour une concurrence équitable vont faire que l'économie du Niger sera bien impactée par la mise en œuvre de cette confédération. C'est l'analyse du Nigérien Ibrahim Louche, expert en économie.
L'impact pour l'économie nigérienne sera sans doute considérable, ce pour deux raisons essentielles. D'une part, l'accès à des débouchés plus faciles pour des produits pétroliers, agricoles ou encore ceux issus de l'élevage, grâce entre autres à la création d'un marché intérieur de la Confédération. Et d'autre part, le pays pourrait bénéficier des politiques communes visant à favoriser une concurrence équitable, à assurer de bonnes conditions sociales aux travailleurs ou encore à réduire les inégalités entre les régions.
Modibo Mahou Magalou estime qu'avec une bonne volonté politique, ces trois pays sont appelés à être des puissances économiques dans la sous-région.
Ce sont des pays qui ont des économies similaires. Ce sont essentiellement des pays agro-silvo-pastoraux, mais ce sont aussi des pays miniers. Ces trois pays ont les mêmes faiblesses aussi, ont des indices de développement humain très faibles, mais je pense que ce n'est qu'une question de volonté politique pour améliorer ces indices et faire de ces trois pays une véritable puissance économique, minière et aussi céréalière.
L'économiste Hachimi Madougou affirme qu'il est nécessaire que chaque pays de la Confédération prenne à bras le corps la bonne gouvernance et la qualité des ressources humaines.
Dorénavant, tous les pays qui ont des ports, on va négocier avec eux en bilatéral. C'est lui qui va accorder beaucoup plus d'avantages d'exploitation de son port au pays de l'AES, c'est à lui qu'on va donner le marché. La gouvernance, la lutte contre la corruption, la lutte contre la délinquance financière et la qualité des ressources humaines, c'est par là, je pense, que va émerger la locomotive du système.
Nos interlocuteurs demandent aux dirigeants de la Confédération de l'AES d'associer les populations à leurs ambitions pour avoir une base solide et assurer une certaine légitimité.